Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Comme d'habitude, nous allons faire un tour du monde. Nous partirons pour les États-Unis ou le Sénégal notamment. Mais il va être surtout question de la France et du Front National dans ce numéro avec nos deux invités, Valérie Igounet et Vincent Jarousseau, auteurs d'un docu-photo qui s'intitule « L'illusion nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FM ». Une semaine d'actualité donc, à écouter aussi quand vous le souhaitez sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Valérie Igounet.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes historienne, spécialiste du Front National, auteur d'une histoire du négationnisme et d'une histoire du Front National publiée au Seuil. On en avait parlé ici même dans une autre émission, oui. Dans Idée précisément. Et vous venez de publier aussi Les Français d'abord, slogan et viralité du discours du FN 72-2017 aux éditions Dernière Marche, c'est ça ?
Un culte. Oui.
Et qui est un livre sur l'iconographie, dirais-je, notamment du Front National. On va en reparler, évidemment. Bonjour, Vincent Jarousseau.
Bonjour.
Vous êtes photographe et documentariste, et tous les deux, vous venez de publier ce très beau livre, et fort remarqué, d'ailleurs, à juste titre, qui s'intitule donc « L'illusion nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FM ». Et il s'agit d'un docu-photo publié aux éditions Les Arènes avec la revue 21. Un docu-photo. Alors, qu'est-ce qu'un docu-photo ? Je pense que les auditeurs doivent se poser la question.
Bien sûr, surtout qu'il s'agit d'un documentaire photo un peu particulier.
C'est pas un roman photo. Hein.
C'est pas un
mais
roman
ça y ressemble
photo,
un peu.
Mais nous avons utilisé les codes du roman photo dans la forme pour un travail documentaire photographique. Donc c'est vrai que ce projet, il est né de notre rencontre entre Valérie et moi. Nous voulions travailler ensemble sur le Front National et en particulier sur ces villes qui ont basculé du côté du Front National à l'issue des dernières élections municipales.
Il y en avait
11. On a choisi de travailler sur 3 villes, Hayange, Beaucaire et Hénin-Beaumont.
Ouais. Hein,
donc 3 villes dans 3 endroits différents en France avec 3 histoires différentes. Et donc c'est une succession de scènes, de dialogues avec des habitants, des électeurs du Front National, des abstentionnistes, des élus aussi, des maires, des opposants, pour essayer de cerner, de comprendre une partie de la France en 2017.
Et il y a un petit côté bande dessinée, parce qu'il y a des bulles, les personnages parlent aussi.
Hein, c'est vraiment la forme du roman photo, améliorée, je dirais. Mais c'est vrai qu'on s'inscrit dans la logique des bandes dessinées de reportage, sauf que tout est vrai, les textes, les images, les dialogues qui ont été validés d'ailleurs par les protagonistes de ce roman photo.
Et donc une véritable immersion qui a duré donc 2 ans dans ces 3 villes parmi 11 du Front National et qui permet d'avoir de comprendre beaucoup de choses, il me semble, sur ce qu'il y a dans la tête des habitants de ces villes, cette désespérance. Moi, la plupart de ces habitants m'ont paru très sympathiques.
Alors oui, ils sont sympathiques, mais c'est pas le problème en fait. Ce qu'on a voulu avant tout, c'est les entendre et les écouter. Donc on leur a tendu notre micro, on les a enregistrés comme dit Vincent, et on a choisi quelques propos qui sont pour nous révélateurs de ce qu'ils sont. Alors c'est vrai
Déclassés.
Oui.
À la marge.
Totalement, oui.
Rejeté.
Oui. Oui.
Et c'est en cela qu'il me semblait sympathique, en fait.
Et c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé l'illusion nationale, vous voyez. Il y a plein de raisons pour ce titre. Mais il y a aussi la désillusion qu'ils portent, c'est-à-dire cette désespérance et cette désillusion qu'ils ont avant tout envers les partis politiques traditionnels, quoi. Ils ne le cessent de nous le dire.
Et l'habileté qu'a eu le Front National de récupérer cette désespérance à son profit.
Totalement.
Oui, de porter un discours audible. Et l'intérêt aussi de ce travail, c'est de faire le lien entre des élus locaux et des électeurs, des élus locaux dans lesquels les électeurs se reconnaissent, puisque socialement, on voit souvent que la frontière, il n'y a pas vraiment de frontière, ce sont les mêmes personnes, le discours est le même, le parcours est souvent le même, la situation sociale est souvent identique.
et des élus locaux qui, dans ces trois villes, se targuent d'être très proches de la population.
Oui, mais je voudrais revenir sur cette habileté du Front National. Il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'aussi, quand on va dans ces territoires, on se rend compte aussi, on va dire, des fautes majeures. Par exemple, du PS. Vous voyez, on est, par exemple, à Hénin-Beaumont. L'ancien maire a été emprisonné, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, ils ont entendu des hommes politiques venir sur ces territoires et dire qu'ils reviendraient. Et ils ne sont jamais revenus. Donc évidemment qu'il y a une récupération par le Front National, mais il y a aussi une déshérence de la part de certains partis politiques. Hein, ça, c'est clair. Après, ce qu'affichent ces élus municipaux, ces maires du Front National, c'est une réelle présence, omniprésence au sein de ces villes et proximité avec ses habitants, ce qu'ils aiment avant tout et ce qu'ils mettent en avant aussi.
Alors, nous allons parler de politique dans ce numéro et pas simplement du Front National. Et revenir d'abord sur un nouveau rebondissement dans la campagne de François Fillon, qui mercredi a annoncé à la presse qu'il était convoqué le 15 mars prochain par un juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire ouverte dans l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope et de ses enfants, avec une charge que tout le monde a remarquée contre la justice. Écoutons François Fillon.
Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. C'est le vote des électeurs de la droite et du centre qui est fauché. C'est la voix des millions de Français qui désirent une vraie alternance qui est muselée. C'est le projet du redressement national que je porte qui est expulsé du débat. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées.
Alors, comme les choses vont vite, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. François Fillon pourra-t-il aller jusqu'au bout ? Véronique Rigolet, jeudi.
Difficile pour François Fillon de reprendre sa course à l'Élysée alors que sa campagne prend l'eau de toutes parts, empoisonnée depuis des semaines par l'affaire des emplois supposés fictifs de son épouse. C'est désormais le naufrage politique qui menace le candidat des Républicains, déjà très affaibli et possiblement mis en examen dans moins de deux semaines. Sa volonté de se maintenir coûte que coûte met en péril aujourd'hui l'unité de sa propre famille politique. Certains de ses soutiens quittent le navire, Bruno Le Maire dès hier, suivi de très près par les sarkozistes Huic, Vautrin et Pierre Lelouch, qui demande le retrait de l'ex-premier ministre, à l'instar de la jupéiste Fabienne Keller. Et puis, plus rude encore, les centristes de l'UDI ont décidé de suspendre leur participation à la campagne, avec déjà, dit-on, la tentation qui grandit chez eux d'un ralliement à Emmanuel Macron. Bref, jusqu'où ira l'hémorragie de ses soutiens et surtout, que vont faire les militants et sympathisants de droite alors que les conditions de la victoire semblent de moins en moins réunies? Les prochains sondages seront sans doute très révélateurs. En attendant le premier test grandeur nature dès dimanche, on verra si le rassemblement Pro-Fillon au Trocadéro fera le plein ou pas.
Alors on verra ça dans les différents journaux pour suivre cette évolution de la situation politique de François Fillon, qui évolue donc très très vite depuis ce que disait Véronique Rigolet jeudi. Il faut savoir que l'UDI a appelé le parti Les Républicains à remplacer Fillon par un autre candidat pour la présidentielle et que son porte-parole Thierry Soler, l'organisateur de la primaire, a quitté lui aussi François Fillon. Vincent Jarousseau, ça va donner des arguments à ceux qui disent que tout se pourrit, le monde politique est corrompu.
Nous, lors du travail que nous avons fait...
C'est au cœur de votre...
C'est au cœur, effectivement. On a rencontré des électeurs qui exprimaient à la fois un sentiment d'abandon et de colère à l'égard de la classe politique traditionnelle, de promesses non tenues, hein, pour leur quotidien déjà, pour commencer, puisque la politique s'est quand même fait pour... régler un certain nombre de difficultés, proposer un projet qui permette au pays d'avancer. Et ce qui est concernant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression d'assister à une sorte de spectacle, de storytelling, d'une certaine manière, où la question centrale, c'est la personne de François Fillon, ou de tel ou tel autre candidat, hein, peu importe. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des projets présidentiels, qui devraient être le sujet au centre du débat. Et c'est vrai que c'est assez consternant. Et on nourrit, par intermédiaire de cette affaire, un discours du « tout se pourrit ». Et on donne des arguments, malheureusement, à ses électeurs.
Ah, pendant que vous parliez, j'ai regardé une très belle photo, d'ailleurs, d'une habitante de Beaucaire, que vous avez prise en En gros plan, ça fait une page complète. Elle dit, dans cette petite bulle qui sort d'elle, « Je ne suis pas raciste, j'en ai juste ras-le-bol de ne pas pouvoir avancer ». Ça résume bien, il me semble, la situation de beaucoup de ces habitants, Valérie Higounet.
Oui, je crois que c'est exactement ça. En fait, Sabrina, que nous avons suivi régulièrement à Beaucaire, exprime ses craintes avant tout pour sa fille.
Oui.
Sa petite fille qui a une dizaine d'années. Elle a son époux aussi qui est malade, qui a une soixantaine d'années, ancien électeur de gauche. Et ce qu'elle met en avant, c'est son sentiment de ne pas pouvoir avancer. Mais ce qui est aussi intéressant dans son profil, c'est que le vote FN s'inscrit de mère en fille. Vous voyez ? Donc il y a cette crainte, cette peur, mais aussi elle n'est pas raciste, mais quand même. Et ce que je veux insister sur quelque chose, pendant ces deux ans d'immersion, on a vécu évidemment pas mal d'expériences, on va dire, mais il y a eu un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu les attentats et la crise des réfugiés. Et Sabrina, comme les autres, nous ont expliqué, et donc ce discours du Front National qu'ils ont entendu et qu'ils ont reçu, c'est-à-dire ces migrants, comme ils les appellent, on en a marre, quoi. Pourquoi toujours eux et nous, les nationaux, on n'a rien.
Ils se sont encore sentis encore davantage
encore plus.
Rejetés.
Et si vous voulez, ils adoptaient cette rhétorique, c'est-à-dire on les entendait dire, oui, ces migrants qui sont logés dans des hôtels 3 étoiles, qui arrivent par des avions privés, vous voyez, ce qu'ils lisaient entre autres sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites d'information parallèles, et nous, les nationaux, on n'a rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi cette instrumentalisation du discours politique.
Vincent Jean-Rousseau.
Et le sentiment, d'une certaine manière, exprimé par ces électeurs, d'un sentiment d'abandon, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'ils ne sont... Ils sont assez rarement au centre de l'actualité. On parle assez peu des questions sociales dans le pays. On a l'impression que ça a été mis finalement de côté. Je parle là des questions d'emploi, des questions d'accès à un minimum pour subvenir à ses besoins. On parle beaucoup de politique internationale, c'est très bien. On parle, Valérie en parlait à un instant, des différentes crises qui secouent notre monde aujourd'hui. Et la politique, finalement, c'est au regard de nos institutions, un débat qui est extrêmement centré sur des personnes, sur des hommes et des femmes providentielles. Et là aussi, on est aussi dans une forme d'illusion entretenue, parce que quelque part, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le salut peut venir d'un homme ou d'une femme, quelles que soient ses qualités ?
Ouais. Alors on va continuer à parler du Front National et partir pour le Salon de l'Agriculture de Paris, qui a eu comme visiteuse Marine Le Pen mardi, Pierre Firsian.
À côté des caméramans et des photographes, exposants et visiteurs tentent de s'approcher pour la voir de près et la prendre en photo.
Marine Le Pen !
Un peu plus loin à son passage, un homme tape sur une casserole. Il entend par là dénoncer les candidats en difficulté avec la justice, au premier rang desquels Marine Le Pen et François Fillon. La candidate du Front National prise à partie quelques instants plus tard par deux militantes féministes. Hormis cela, pas de signe d'animosité à son passage. Au contraire, la présidente du FN semble ici en terrain conquis. Et ce matin, elle est venue faire cette promesse aux agriculteurs.
Je vais tout changer. On va sortir de ce modèle de dingue. On va faire du patriotisme économique tout de suite.
Marine Le Pen qui entend également sortir la France de la politique agricole commune, un point sur lequel elle ne parvient pas toujours à convaincre. Malgré cela, ses propositions semblent trouver un véritable écho.
Tout le monde, si bien à droite qu'à gauche et tous les autres, ils ont toujours promis, ils n'ont jamais rien fait. Alors on peut que croire, c'est tout. Après, est-ce qu'ils feront beaucoup mieux ? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils feront jamais moins.
Le point de vue de cet exploitant est loin d'être isolé. Plus d'un tiers des agriculteurs envisageraient de voter pour la candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle.
Il faut aussi ajouter que Marine Le Pen a vu son immunité parlementaire européenne levée sur un dossier très précis d'images violentes de l'État islamique diffusées sur son compte Twitter. Alors là, Marine Le Pen s'est adressée aux agriculteurs. Vous, les villes dans lesquelles vous êtes allés sont des villes où l'agriculture est absente. C'est vraiment l'univers, non ?
Alors, sauf à Beaucaire. Ouais. À Beaucaire, il y a une agriculture qui est très présente. C'est des plaines agricoles importantes. Ou d'ailleurs, il y a une problématique qui est soulevée dans le livre, puisque on a une électrice du Front National au RSA, Virginie, qui exprime sa colère, puisque après une formation dans le secteur agricole, elle voulait travailler auprès d'un exploitant, et elle est confrontée à la concurrence de la main-d'œuvre des travailleurs détachés.
Vous avez entendu ce monsieur qui disait :« On ne peut que croire, Valérie.
La ça résume aussi la notion d'espérance dans ce parti. Vous savez, on entend aussi beaucoup dans cette illusion nationale ces personnes qui croient aussi aussi au FN parce que, comme il dit, le Front National n'a jamais été au pouvoir. Et ça aussi, c'est une notion qu'il faut développer parce que les tous pourris en face, évidemment qu'ils ont accédé au pouvoir et pour eux, ils n'ont pas donné de preuves tangibles. Tandis que pour eux, le Front National est un véritable espoir dans ce sens-là aussi.
Sept jours dans le monde.
Et quittons un instant la France pour les États-Unis où mardi Donald Trump, un modèle peut-être pour Marine Le Pen, s'est adressé au Congrès. C'était une première, évidemment. Washington, Jean-Louis Portet.
Ce fut certainement le meilleur discours de Donald Trump depuis sa prestation de serment. Celui de son investiture avait été jugé sombre et partisan. Celui d'hier était beaucoup plus optimiste. Il a parlé d'un renouveau de l'esprit américain, moins combatif, avec un appel appuyé aux démocrates pour se joindre à lui pour réaliser ses grands projets. Pour ce qui est du contenu du discours, il a rappelé ce qu'il avait accompli en un mois. Il a tout naturellement demandé l'abolition de l'Obamacare et son remplacement par des réformes donnant un meilleur accès aux soins de santé et réduisant les coûts. Il a promis une réduction d'impôts pour les entreprises et la classe moyenne. À propos de l'immigration, il souhaite que les deux parties s'unissent pour enfin parvenir à une réforme du système qui serait basée sur le mérite, comme au Canada et en Australie. Il veut une application stricte des lois sur la sécurité aux frontières et a annoncé le début prochain de la construction du mur avec le Mexique. Pour ce qui est de la politique étrangère, il a réitéré son engagement à l'OTAN et sa volonté de détruire Daesh avec l'aide des alliés, y compris musulmans. Mais la trame de son discours reste l'Amérique d'abord, car comme il l'a répété, son rôle n'est pas de représenter le monde, mais les États-Unis d'Amérique.
Donald Trump qui a par ailleurs annoncé une hausse du budget militaire américain de près de 10%. Valérie Higounet, est-ce que Donald Trump est un allié pour la campagne de Marine Le Pen?
Évidemment.
Un modèle?
Évidemment, et puis c'est un signe pour elle, d'ailleurs elle ne cesse de le dire, très positif. L'Amérique d'abord, les Français d'abord, ils sont aussi sur un ensemble de points communs et sur une rhétorique commune, bien sûr. Brexit, des signes annonciateurs qu'elle envoie aussi à son électorat.
Alors on a l'impression dans votre travail de photographe, de confident, enfin d'intervieweur de ces habitants des trois villes choisies, gérées par le Front National, qu'il y avait de leur part une envie de parler. Est-ce que c'est une impression que j'ai en tant que lecteur de ce formidable livre ou pas ?
Vincent Gorosso. C'est pas du tout une impression, c'est une réalité que l'on a.
Ne serait-ce que le besoin de parler.
Parler et se montrer aussi. C'est un travail sur les représentations. J'insiste beaucoup sur ce terme. Et d'où la pertinence à un moment donné de faire cette alliance entre la photo et la parole, d'où ce choix de la forme du roman photo.
Oui, parce qu'avec votre appareil photo, vous êtes allé au plus près, c'est-à-dire qu'on voit les habitants, ces habitants chez eux, à leur domicile, dans leur vie
dans
quotidienne.
Leur quotidien.
Ils vous ont oublié à un moment donné, non ?
Le quotidien, mais parce que le quotidien, ça parle. Quand on est chez les gens, il y a l'ameublement, enfin tout transparaît. Et c'est vrai que, enfin, pour revenir à cette question des représentations, on a une sous-représentation des classes populaires dans les médias en général en France, notamment la classe ouvrière et des employés, et un besoin de reconnaissance. Et ce qui a fonctionné, je pense, dans notre travail et dans ces échanges que l'on a pu avoir avec ces citoyens, c'est d'une part la confiance qu'ils nous ont accordée et le respect que l'on a pu exprimer à tout moment, l'empathie que l'on avait dans ce travail, ça n'aurait pas pu fonctionner autrement. Et pour cela, c'est vrai que ça supposait de s'inscrire dans une durée.
Vous savez, Marine Le Pen, là, elle les nomme les invisibles. Alors, je ne vais pas prendre le contre-pied de ce qu'elle dit, mais c'est vrai qu'avec Vincent, nous, ce qu'on voulait avant tout, c'était les rendre visibles et les entendre. Il faut bien imaginer ce qu'on a fait, c'est-à-dire que pendant ces longs allers-retours, on a partagé des heures avec eux. Ce ne sont que quelques bulles et que quelques photos. Vincent a un corpus incroyable de photos. Nous avons des heures de dialogue, vous voyez, et on a dû sélectionner.
Et ce qui ressort de ces dialogues, c'est la fierté, hein, d'être ce qu'ils sont. Ouvriers, ils le revendiquent.
Oui, ils le revendiquent. Ils sont souvent, quand on va notamment dans le bassin minier à Hénin-Beaumont, il y a la fierté du passé minier revient très, très souvent.
Valérie.
Et ils sont aussi fiers d'appartenir à ce parti, au Front National.
Oui. Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose, oui.
Valérie Higounet, Vincent Jarousseau, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction de RFI et nos invités Valérie Igounet et Vincent Jarousseau, tous deux auteurs de L'Illusion Nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FM, un docu-photo publié aux éditions Les Arènes avec 21.
Une semaine d'actualité.
Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette seconde partie d'une semaine d'actualité en Afrique avant de reparler de la campagne présidentielle en France. Et d'abord revenir sur la famine qui sévit dans plusieurs pays du continent, en Somalie notamment, à Nairobi, Laure Broulard.
Là-bas, on voit des cadavres d'animaux partout le long des routes, rapporte un humanitaire de retour de Somalie. Dans certaines zones du nord du pays, au Somaliland et au Puntland, près de la moitié du bétail a succombé au manque d'eau et de nourriture, et les habitants ont maintenant peur pour leur vie. Près de 3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Cela fait 3 saisons des pluies qu'il ne pleut presque pas depuis septembre 2015 et beaucoup craignent que les prochaines précipitations prévues pour avril soient très faibles. Si la sécheresse touche toute la région, le manque d'infrastructures rend les Somaliens plus vulnérables que leurs voisins kényans et éthiopiens, affirme Vincent Lelay, coordinateur adjoint pour les affaires humanitaires des Nations Unies. Selon lui, l'annonce du président somalien est positive. Mohamed Abdullahi Farmadjo a promis qu'il mobiliserait toutes les ressources du gouvernement pour lutter contre la sécheresse et qu'il faciliterait le travail des humanitaires. Entre 2010 et 2012, la sécheresse qui avait touché le pays avait entraîné une famine faisant près de 260 000 morts selon l'ONU. Aujourd'hui, si l'on réagit vite, disent les humanitaires, la catastrophe peut encore être évitée.
De son côté, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue dans la région sinistrée du lac Tchad jeudi. Écoutez ce que disait avant cette visite notre correspondante au Cameroun, Binta Diagne.
Sur le terrain, les diplomates onusiens auront une vision concrète de l'état de dégradation de la situation socio-économique dans le bassin du lac Tchad. À cause de l'insécurité, des milliers d'habitants ont dû fuir leur village, abandonner leurs activités agricoles et l'élevage, deux sources de revenus importantes. Résultat, une crise alimentaire aiguë s'installe, notamment dans le nord-est du Nigeria. Or, les fonds mobilisés pour soutenir les actions des humanitaires ne sont pas suffisants. 10,7 millions de personnes ont actuellement besoin d'une assistance dans le bassin du lac Tchad, estime Stephen O'Brien, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, qui parle, je cite, d'une des crises humanitaires actuelles les plus graves. Autre constat dressé par ce responsable, 80% des personnes déplacées sont toujours accueillies par des communautés locales, elles-mêmes dans une situation de pauvreté. Cette tournée sera enfin l'occasion de faire le point sur les actions militaires menées par le commandement de la force multinationale mixte basée à N'Djamena.
Parlons maintenant de la première visite officielle du nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, au Sénégal. Voyage symbolique s'il en est, à Dakar jeudi, Guillaume Thibault.
Je voudrais dire combien je suis heureux d'accueillir mon frère.
Si l'expression « mon frère »,« my brother » est utilisée par les deux présidents, si les liens historiques, sociaux, communautaires lient les deux peuples, Macky Sall a rappelé qu'il n'était pas question de revenir à un système de confédération entre le Sénégal et la Gambie.
Notre ambition, c'est vraiment de travailler directement, que les deux gouvernements travaillent directement, que les deux États travaillent directement, sans les artifices d'une confédération ou d'une fédération. Ce n'est pas du tout aujourd'hui à l'ordre du jour.
Adama Barrow, président d'une Gambie à recréer, souhaite lui aussi faire de son pays un État souverain. Interrogé par exemple sur la possibilité de rejoindre la zone CFA, le chef de l'État a balayé l'idée.
C'est une nouvelle démocratie en Gambie. Changer de monnaie ne fait pas partie de notre plan. Nous sommes un État souverain et nous utilisons le dalassi depuis notre indépendance.
Les relations sont bonnes, mais le Sénégal et la Gambie ont donc des désaccords. Macky Sall a par exemple réaffirmé sa volonté de lutter contre le trafic de bois, notamment le bois de veine. Adama Barrow est lui visiblement pour une régularisation de ce lucratif commerce.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, vous la connaissez par cœur. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un petit bonjour aujourd'hui à Oumar Mahamat qui vit à N'Djamena, Malal à Nouakchott. Un bonjour à Hervé et Sarah à Paris, à Abdoulé à Conakry et à Guy Brima à Niamey.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre voyage dans quelques villes du Front National choisies par Vincent Jarousseau et Valérie Higounet dans leur livre L'Illusion Nationale, c'est-à-dire Hayange, Beaucaire et Hénin-Beaumont, trois des 11 villes gérées par le Front National depuis 2014. Valérie Higounet, je voudrais m'attarder avec vous un instant sur la progression du Front National. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste du Front National. En 1974, Jean-Marie Le Pen faisait aux élections, à l'élection présidentielle, 0,74%. Ça paraît très loin. En 1988, Jean-Marie Le Pen, 14,38%. 95, 14,94%. 2002, il arrive au deuxième tour. 2007, il redescend, 10,44%. Et Marine Le Pen, en 2012, fait 17,9%. Progression incontestable.
Et le meilleur résultat du Front National pour sa première présidentielle. Oui, en 74, c'est un groupuscule politique.
Vous rappelez que le Front a 2 ans à l'époque.
Oui, à peine 2 ans. Ouais, il apparaît en octobre 72 sur la scène politique française. À ce moment-là, en 74, on donne peu d'espoir à ce petit groupuscule qui se surajoute à d'autres groupuscules d'extrême droite antérieure et on se dit que a priori, il n'a pas d'avenir politique. Mais on se trompe donc, puisque comme vous le faites remarquer, il ne cesse en gros d'avoir une certaine ascension. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce parti est dans une dynamique électorale inédite. Ça,
alors,
c'est vrai.
On en avait parlé dans l'idée il y a quelques années avec votre livre sur l'histoire du Front National. Jean-Marie Le Pen ne voulait pas gouverner.
Moi, je suis pas vraiment d'accord. On en avait parlé et je l'avais précisé. Si vous voulez, moi, je dis toujours qu'il y a un président du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui s'est aussi singularisé par ses pseudo-dérapages, ce mode bruyant, provocateur, etc. Mais pour avoir rencontré de nombreux bâtisseurs de ce parti, de nombreux cadres, de nombreux numéros 2, je pense à Karl Lang, à Bruno Maigret et à d'autres, ces personnes aspiraient à prendre le pouvoir. Donc évidemment qu'ils avaient devant eux un rival. C'est pour ça aussi que la scission en 98 entre Bruno Maigret et le Front National a failli être fatale. Un des seuls problèmes qu'il y avait, c'est que Bruno ne s'appelait pas Le Pen, s'appelait Maigret. Mais voyez, justement, aujourd'hui, on est dans une configuration où Marine, évidemment, porte le patronyme. C'est quand même aussi une des singularités. Évidemment, avant tout, une marque, comme on dit, Le Pen. Et c'est vrai que ce parti-là a beaucoup plus de probabilités de continuer son ascension par tout ce qu'on a dit précédemment, oui, bien sûr.
Vous qui scrutez donc l'évolution du Front National, vous nous rappelez quand même qu'en 1973, il y avait en son sein à peu près 3% d'ouvriers. Mm-hmm. En 1995, quasiment un tiers. Et en 2012, presque la moitié. Et là, on revient en quelque sorte à votre livre sur c'est les ouvriers délaissés par la gauche, par le Parti Socialiste notamment, et qui se sont repliés.
Il y a deux catégories d'ouvriers. En fait, en 95, on montre bien qu'avec cette élection présidentielle, qu'il y a aussi des ouvriers de droite, vous voyez, qui votent avant tout. Et ça, il faut bien discerner ces deux catégories. Aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que une enquête du CEVIPOF qui est sortie en février, là, vient de le montrer, et on le sait aussi.
Temps d'étude de la vie politique de.
Déjà, c'est vrai que les gauches françaises ne parviennent plus à agréger le vote des classes populaires. Ça, c'est la première chose. Et il semblerait aussi que par cette enquête, un tiers de cette classe populaire s'apprête à voter Front National pour la présidentielle. On parle aussi d'une élection spécifique, de la présidentielle. Les législatives suivent. Évidemment que les choses seront différentes comme les élections antérieures.
Alors, est-ce que c'est aussi votre avis, Vincent Jarousseau?
Disons que pour revenir aux classes populaires et en particulier aux ouvriers, aux chômeurs, aux employés, pour faire vite, on est aujourd'hui inscrit clairement dans un processus de désaffiliation politique qui se traduit à mon avis par deux phénomènes majeurs. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier, parce que certes, on parle des gens qui votent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne votent pas.
Les abstentionnistes.
Les abstentionnistes qui sont présents dans notre livre, dans l'illusion nationale, oui. Puisque c'est vrai qu'il y a une proximité, je dirais, dans ce processus de désaffiliation qui est assez proche de certains électeurs du Front National. Pas de tous, hein, attention. Et c'est vrai qu'il y a des points communs. Beaucoup d'électeurs du Front National, et on le voit aussi chez des élus hein, de base, je parle vraiment des élus de base, ne sont pas très charpentés idéologiquement. Hein. Il parle de thèmes comme ça, on parle beaucoup de xénophobie, d'immigration, mais il n'y a pas une structuration politique très forte. Et ceci peut d'ailleurs expliquer pourquoi on a eu autant, enfin c'est une des raisons, mais à notre sens, on a eu beaucoup de départs parmi les élus frontistes municipaux depuis 2014, puisque on estime aujourd'hui à 28% le nombre d'élus ayant quitté ce parti. Et justement, souvent, et on en a rencontré et croisé, c'était souvent parce qu'il se faisait une fausse idée de ce parti ou parce qu'il n'était pas prêt, pas structuré idéologiquement.
Parce que le rôle de ces élus locaux, et pour parler des maires en particulier, Valérie Gounet, est assez limité finalement. Ils repeignent des statues, ils aménagent des places. Enfin, ça va pas très très loin quand
même.
Tout
à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ces électeurs adhérents qu'on a rencontrés, si vous voulez, ce qu'ils mettent avant tout en évidence, ce qu'ils recherchent dans un élu, dans un maire, c'est ce que vous dites, la propreté. On parle souvent des bacs à fleurs, on a cessé de nous parler des fleurs dans la ville pour l'embellir. Un maire qui appelle un citoyen par son prénom, lui serre la main.
Vous savez, alors, boire un coup avec ses administrés aussi.
On a beaucoup entendu, je pense par exemple à Hénin Beaumont, le maire précédent, Eugène Binet, il nous expliquait que c'était quelqu'un qui, non seulement ils avaient ce sentiment d'être dédaigné, quelqu'un d'hautain, voilà comme il décrivait, mais il disait aussi qu'il ne leur disait jamais bonjour. Alors, vous voyez, ce sont des signes.
Grands effets quand même.
Bien sûr, mais c'est ça qu'on a entendu.
Vincent Jean-Rousseau.
Petite cause, grands effets, mais en même temps, c'est un peu le paradoxe de la situation, parce que effectivement, là, on parle de mairies, de villes pas très grandes, hein, entre 15 et 25 000 habitants. Ce sont souvent des communes qui sont noyées dans des intercommunalités beaucoup plus grandes, où ces maires frontistes sont en minorité. Donc, leur pouvoir de décision est finalement assez limité. Mais en même temps, ce sont les personnages emblématiques de la vie politique locale. Et ils savent en jouer. Ils savent en jouer, comme on le disait, dans l'empathie qu'ils peuvent développer auprès des habitants, cette proximité, cette capacité à être à l'écoute, hein, tout simplement. Dans une politique aussi un peu cosmétique, hein, où on va repeindre, où on va insister beaucoup sur la propreté, les fêtes. Mais quelque part, tout ça interroge beaucoup sur la démocratie.
Et justement, à propos de démocratie, est-ce qu'ils reçoivent des consignes du parti, enfin du Front National, ou est-ce qu'ils ont une autonomie, finalement, de gestion, d'action?
Ça dépend qui, je crois.
Ouais.
Vous voyez, quand on parle d'un maire comme Fabien Angelman à Hayange, cet homme a eu de multiples actions, plus que provocatrices. Je pense, par exemple, on n'est plus dans la provocation seulement, à la fête du cochon qu'il a instituée après son mandat, avec un caractère islamophobe évident, et d'autres actions. Il est évident que lui est surveillé par le siège du Front National. Ils ont envoyé, quelques émissaires, deux notamment, pour qu'on fasse attention à cette personne.
Parce qu'il faut rappeler que le Front National veut faire de ces villes une sorte de vitrine.
En sont, hein, Hénin Beaumont à Hayange, et avant tout Hénin Beaumont est une vitrine du Front National. Steve Réouat n'est pas rien, hein, dans le parti, quoi.
Ouais.
Après, je dirais aussi que les maires jouent avec leurs armes. Fabien Angelman ne devait pas gagner cette élection municipale. Le Front National n'est pas majoritaire à Hayange et dans la vallée de la Fensch. Et c'est quelqu'un qui sait très bien jouer sur ces scandales pour faire parler de lui et pour mobiliser son électorat avec lui.
Dans une région de la sidérurgie abandonnée.
Voilà, la sidérurgie, la fermeture des hauts fourneaux, etc.
Alors nous sommes revenus à l'élection présidentielle française. Continuons avec cette fois la présentation par Emmanuel Macron de son programme jeudi. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron avait déjà quasiment tout dit au fil de ses meetings et de ses déplacements. Mais cette fois-ci, il présente son programme dans sa totalité. C'est le programme d'un candidat qui revendique une vision du rôle du président de la République assez gaullienne. Un chef de l'État garant des institutions qui définit les grandes priorités. Et la première des priorités d'Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'école, dont il fait sa mesure phare avec une volonté de mettre l'accent sur l'école primaire dans les quartiers en difficulté. Vient ensuite la réforme du marché marché du travail, dont l'objectif est de faire baisser le nombre de chômeurs de 900 000 en 5 ans, grâce notamment à une réforme de l'assurance chômage et de la formation continue. 15 milliards seront consacrés à la formation des jeunes sans qualification et des chômeurs sur les 50 milliards d'investissements prévus par le candidat. Emmanuel Macron n'envisage pas de modification de l'âge de la retraite ou du niveau des pensions durant le quinquennat, mais veut engager une réforme qui doit aboutir à créer un régime universel, le même pour tous. Et puis Emmanuel Macron propose d'aller plus loin en matière de moralisation de la vie politique avec une loi qui interdira aux parlementaires d'employer des proches. Une proposition qui tombe à pic en pleine affaire Fillon.
Valérie Gounet, Vincent Jarousseau, intéressons-nous maintenant à la campagne du candidat socialiste Benoît Hamon à la recherche d'un second souffle, Anissa El-Jabri.
Nouveau style pour nouvelle phase de campagne. Fini le pupitre délaissé pour arpenter la scène façon stand-up. Cette fois, Benoît Hamon lit ses fiches et ses attaques ciselées, d'abord pour François Fillon.
Est-ce que la France a plus besoin de François Fillon et de ses collaborateurs, fictifs ou réels, ou d'infirmiers, d'enseignants, de postiers, de chercheurs, de pompiers et d'assistantes sociales?
Mais l'adversaire immédiat, c'est Emmanuel Macron. Combattre l'idée qu'il peut être le vrai vote utile à gauche, pour ça le candidat tente de le repousser dans le camp de la droite.
Quand j'ai entendu Emmanuel Macron proposer un jour de carence pour les agents malades, 10 milliards de coupes budgétaires et surtout 120 000 suppressions de fonctionnaires, je me suis dit, tiens, c'est la mode, François Fillon a lui-même trouvé son hologramme.
Aux critiques dans son camp, Benoît Hamon entend aussi se montrer prêt à défier Marine Le Pen.
Je n'accepte plus que Marine Le Pen menace les fonctionnaires de police et de justice qui ont la charge d'enquêter sur ces agissements. Cette intimidation violente montre quoi ? Que l'extrême droite n'a pas changé.
Les électeurs des classes populaires passés au Front National, Benoît Hamon les dispute aussi à Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup de fronts ouverts, beaucoup d'adversaires et moins de 60 jours pour tenter de s'imposer.
Alors on va reparler dans un instant des attaques de Marine Le Pen contre les magistrats et contre les fonctionnaires, c'était à Nantes dimanche dernier, mais une question sur la gauche par rapport au Front National, est-ce qu'elle peut, cette gauche, reconquérir un petit peu du terrain perdu au profit du Front National, Vincent Jarousseau?
Il y a une difficulté, hein, c'est qu'on sort d'un quinquennat extrêmement compliqué pour le Parti Socialiste qui était au pouvoir. On a un candidat qui est en rupture, qui se pose, je dirais, qui était un des frondeurs et je dirais qu'il n'assume pas l'ensemble du bilan de François Hollande et qui en même temps a un profil assez singulier dans une campagne présidentielle. C'est qu'il ne se pose pas comme un homme providentiel.
Ça se remarque effectivement. Oui.
À la différence d'un Emmanuel Macron, c'est Benoît Hamon.
Qui a une posture quasiment gaulienne.
Qui a une posture gaulienne et Benoît Hamon le revendique. Hein, il revendique le fait de ne pas être dans cette posture-là. Donc ça fait beaucoup, je dirais, de handicap. Ça me semble compliqué en 60 jours de réussir à la fois à rattraper le temps perdu et à faire comprendre cette posture aux électeurs.
Alors parce que du côté du Front National, et on le voit très bien à chaque page de votre livre, Valérie Gounet, Vincent Jarousseau, l'illusion nationale, au Front National, c'est le culte de la personnalité au contraire. Le nom de Marine Le Pen revient
souvent. C'est quand vous... Oui, c'est plus que... Elle est idolâtrée, cette femme. Hein. Il y a même presque un mimétisme physique pour certaines jeunes filles. Oui. Regardez la couverture, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi.
Une jeune fille blonde qui fait un selfie, comme on le fait aujourd'hui avec Marine Le Pen. Et comme on le ferait avec une star.
Et Marine d'ailleurs. Ils l'appellent Marine, hein, comme ils appellent Steve, etc. Ça, c'est assez révélateur. Hein.
La particularité à Hénin-Beaumont, c'est que c'est un des rares endroits en France, il faut quand même le rappeler, où Marine Le Pen peut déambuler dans les rues, faire des selfies avec les citoyens. Moi, je l'ai photographiée il n'y a pas très longtemps à Denain, pas très loin de là, qui est une des villes les plus pauvres de France, dans le Nord. Elle a donné une conférence de presse dans un café et elle n'a pas du tout circulé dans les rues. Et il y avait un dispositif de sécurité autour d'elle parce que les cadres du Front National localement craignaient des incidents. C'est aussi quand même une réalité hein, qu'il faut rappeler. Marine Le Pen est aujourd'hui a une grande difficulté à pouvoir faire une campagne sur le terrain. Elle fait des visites dans les entreprises, elle donne des conférences de presse, elle organise des conférences dans des salons d'hôtels à Paris. C'est là que se passe sa campagne pour l'instant.
Et Nabomont, cette ville est vraiment singulière pour plein de points. Mais il faut bien savoir que depuis 95, l'équipe de Steve Briouat est là et laboure le terrain. Et c'est vrai qu'elle a aussi laminé la gauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut quand même pas l'oublier, c'est la première ville où un maire FN est élu au premier tour. Ce n'est pas rien quand même dans notre histoire. Ouais.
Alors revenons justement sur les propos de Marine Le Pen, toujours elle, le dimanche à Nantes, cernée par des enquêtes judiciaires, elle aussi. Elle s'en est pris également aux magistrats et aux journalistes, comme François Fillon. Elle a en plus menacé les fonctionnaires Pierre Firsio.
Après la mise en examen de deux de ses proches, une profession est clairement dans le collimateur de la candidate du Front National.
L'état de droit est le contraire du gouvernement des juges, qui constitue une dérive antidémocratique, oligarchique. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour contrecarrer la volonté du peuple.
Les juges seraient donc les seuls responsables des tourments judiciaires de sa garde rapprochée, des magistrats aidés dans leur mission par des fonctionnaires de police et de justice, des fonctionnaires que Marine Le Pen a tenu à mettre en garde.
Je veux dire aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus, de se garder de participer à de telles dérives. Ces fonctionnaires devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales.
La candidate FN est convaincue que le pouvoir instrumentalise la justice pour tenter de la déstabiliser, un sentiment partagé par ses sympathisants frontistes.
C'est un peu une manœuvre politique, il y a un acharnement.
On voit bien qu'il y a une manipulation du système.
Et si certains élus FN venaient à être condamnés par la justice, cet autre sympathisant l'assure.
Ça n'entamera absolument pas notre foi en ce que doit être la France demain et nous pensons que Marine est la meilleure pour incarner ce changement.
Suite de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité consacré à l'élection présidentielle et à Marine Le Pen en particulier, il s'est passé quelque chose ces derniers jours quand même en France, Valérie Gounet, avec les propos de François Fillon, les propos graves contre la lourde, contre la justice et les journalistes il y a quelques jours. Marine Le Pen, dimanche dernier, même chose, on vient de l'entendre. Quelque chose se passe là.
Quelque chose continue peut-être aussi, une surenchère sémantique.
On a passé un degré alors.
On ne sait plus maintenant. Hein. Vous savez, la campagne de 2007, rappelez-vous, entre Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen, elle était pas mal là-dessus aussi. Rappelez-vous aussi des investitures là pour la dernière présidentielle. Les discours, il faut les réécouter. Alors oui, ça se reproduit, je crois. Ce qui est intéressant à voir, je trouve, c'est que de nouveau, Marine Le Pen revient à ses fondamentaux. Vous voyez, là, c'est un discours très, très offensif.
Chasse naturelle, il revient au galop.
Un peu, ouais. Et c'est vrai que cette rhétorique du complot qui est omniprésente dans le discours
du système.
Ce n'est pas rien ce qu'elle dit. Hein. Ouais. Ouais, ce n'est pas rien. Et tout ça, on est dans un contexte d'affaires aussi, que ce soit évidemment pour François Fillon.
Alors, affaires judiciaires, effectivement, pour François Fillon et pour elle, sauf qu'elle refuse d'aller de répondre à la
convocation. Non seulement elle refuse, elle ne reconnaît pas les faits, mais ça c'est tout à fait logique. Ce qui est assez intéressant, c'est justement les incidences sur l'électorat. On connaît les incidences sur l'électorat du candidat des Républicains, c'est clair. Hein. Mais par contre, au sein du Front National, ça glisse pour l'instant. Pour l'instant, à l'instant T dont on parle. C'est-à-dire que eux réceptionnent bien ce discours qu'elle vient de développer à Nantes, cette thématique du complot, entre autres journalistique, et pour eux, non, c'est encore quelque chose qu'on crée, qu'on invente, justement, parce qu'on n'a plus que ça, vous voyez, pour anéantir Marine Le Pen. On en est à monter, soi-disant, des affaires financières pour justement la déstabiliser parce que cette femme, elle vend en poupe. Et son parti, bien sûr.
Alors, il y a un des habitants de Hénin-Beaumont. Décidément, on parle beaucoup d'Hénin-Beaumont. Il n'y a pas simplement cette ville dans votre livre. Il dit, les gens en ont marre, ils veulent essayer autre chose. J'ai déjà tout essayé, comme si, de toute façon, quoi qu'il en coûte, il votera Front National. Et Cathy, qui tient une baraque à frites, d'ailleurs une belle baraque à frites, une caravane qui est en photo, frites, sandwichs variés, hamburgers, boissons, ça s'appelle Kumba Frites, dit, je vote FN depuis quelque temps, j'en avais ras-le-bol, ils m'ont donné un sacré coup de main pour m'installer, ça me conforte encore plus dans mes idées. On a vraiment l'impression, quand on lit ça, quand on voit ça, qu'il peut arriver n'importe quoi à Marine Le Pen, notamment sur le plan judiciaire, elle votera, cette femme, ou ce monsieur, pour elle.
On en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est le seul grand parti qui n'a pas exercé le pouvoir nationalement, il est certain que des personnes qui sont dans des situations très compliquées, hein, comme cette dame qui tient une baraque à frites, qui a des tout petits revenus, bah, quelque part, le pire pour elle est déjà là. Et c'est un sentiment qui est
ça
souvent...
Ça ne peut être que mieux.
Ça ne peut être que mieux, parce que de toute façon, on parlait tout à l'heure des agriculteurs. Je crois qu'il y a une enquête qui est sortie sur les revenus moyens des éleveurs en France, avec des revenus à peine supérieurs à 400 euros par mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de plus à ces gens-là ? Donc effectivement, un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir a une sorte de virginité qui lui permet potentiellement de résoudre une partie des problèmes des gens.
Une toute Valérie, petite Valérie, évidence, mais je crois qu'il faut quand même la verbaliser. Aujourd'hui, en 2017, l'espoir, les gens ont une espérance dans un parti d'extrême droite. Ce n'est pas rien quand même.
Oui.
Il faut vraiment s'attarder là-dessus. Et on parle du discours de Nantes, ce n'est pas rien non plus, quoi, alors, ce qu'elle a dit.
Dans votre livre, Les Français d'abord, cette étude des slogans, la viralité du discours du Front National, vous utilisez précisément ce mot viralité.
Oui.
Le virus court.
Oui, c'est
propage.
Ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport justement à cette contamination sémantique et politique. C'est vrai qu'à un moment, les opposants, et notamment la droite du Front National, se sont appropriés ce discours, hein, dont la thématique de la xénophobie, pour essayer de capter cet électorat et de parler comme elle ou comme eux, bien sûr, bien sûr.
Merci Valérie Gounet, merci Vincent Jarousseau d'avoir fait ce livre qui est magnifique, qui était original et qui permet vraiment en profondeur de comprendre pourquoi certains sont tentés par le vote Front National dans les villes, dans quelques-unes des villes gérées par ce parti. Ce livre s'intitule « L'illusion nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FN ». Il est publié par les éditions Les Arènes avec le magazine 21.
Merci.
Merci. J'ajoute, Valérie Gounet, votre livre « Les Français d'abord, slogan et viralité du discours Front National 1972-2017 » aux éditions Inculte, dernière marge, hein, c'est ça,
oui, c'est
le nom
ça.
De l'éditeur. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain dans le magazine Idée pour parler de l'œuvre magistrale et hilarante aussi, surtout, d'un certain François Rabelais, toujours actuel, on le constatera. Demain dimanche dans Idée, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine dans un instant, un nouveau journal sur RFI, bien sûr.
Écho d'ici.